Hein, c'est où t'as entendu ça?
Ah, j'ai mes sources.
Le commentaire de Françoise Boivin, une présentation de Resto Bistro Rumeur. Des commentaires qui ne vous laisseront pas sur votre appétit.
Que l'Outaouais se lève!
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin.
Que l'Outaouais se lève!
Au 104.7 Outaouais.
C'est l'heure d'aller retrouver Nicolas Brisson. Nicolas, on commence avec SNC-Lavalin. Est-ce que Justin Trudeau est dans l'embarras par l'enquête qu'on va tenir?
Je pense pas, Michel, moi. À la lumière des informations qu'on a, c'est pas clair du tout que Justin Trudeau aurait bafoué la loi. En fait, ce qu'on comprend, puis c'est ce qu'il a dit là, suite à des conversations qu'il a eues avec l'ancienne ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, c'est qu'il aurait demandé à la ministre de regarder la possibilité qu'il y ait un accord de réparation, ce qui est légal, là, que SNC-Lavalin se prévale du régime d'accord de réparation, ce qui permettrait à SNC-Lavalin d'éviter de ne pas pouvoir soumissionner et, à toute fin pratique, de sauver l'entreprise et les emplois. Là, le commissaire à l'éthique va enquêter là-dessus, à savoir est-ce que M. Trudeau a enfreint la loi, oui ou non. Politiquement, maintenant, quand on regarde l'opinion publique, je pense pas qu'il va payer un énorme prix. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau n'est pas intervenu, n'a pas empêché le système judiciaire, par exemple, d'accuser un de ses proches ou de favoriser une entreprise où il serait actionnaire. Autrement dit, il n'y avait pas vraiment d'intérêt là-dedans, à part de vouloir sauver des emplois. Puis n'importe qui suit ça, là, l'opinion publique en général, peut facilement dire, bon, est-ce que ça s'est fait selon toutes les règles? On ne le sait pas. Mais l'idée qu'un premier ministre intervienne auprès d'une ministre pour sauver des emplois, pour sauver un fleuron économique, je vois pas comment l'opinion publique pourrait se scandaliser de ça, là. Évidemment, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, sauf qu'à la lumière des informations qu'on a, c'est peut-être pas, on n'aime peut-être pas ça, voir ça, là, un premier ministre qui intervient dans un dossier judiciaire, sauf que, à toute fin pratique, là, ouais, il intervenait dans le cadre de la loi, puis c'est un catch-22, là. S'il intervient pas, on va dire, ben là, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez mourir SNC-Lavalin? Il y a 50 000 emplois. S'il intervient, on dit, ben là, ça menace l'indépendance judiciaire. Ben, à un moment donné, lui, le premier ministre, il a décidé d'intervenir. De quelle façon? Ça, le commissaire à l'éthique va se pencher là-dessus. Mais peu importe, moi, je pense pas, là, qu'il y ait un gros prix politique à payer, même si je vois bien que l'opposition fait ses choux gras avec ça.
Et surtout qu'on est en pleine année électorale, c'est un petit peu ça qui peut être dommageable, ouais, pour Justin Trudeau, là.
Ben, c'est souvent l'accumulation, hein. Tu sais, t'as plusieurs dossiers, là, où Justin Trudeau a eu des problèmes au cours des derniers mois. Puis t'as aussi le fait que le problème, dans le fond, c'est au sein de son cabinet. C'est la ministre Judy Wilson-Raybould qui garde le silence au nom du secret professionnel. Mm-hmm. Sauf qu'en gardant le silence, c'est comme si elle cautionnait l'idée que le premier ministre l'aurait congédié parce qu'elle aurait refusé d'intervenir dans le dossier SNC-Lavalin, puis que dans le fond, lui aurait donné une directive très claire d'intervenir, voilà, ce qui semblerait pas très légal. Sauf qu'à la fin, ce qui compte, tu l'as dit, on est en année électorale, est-ce que le premier ministre a fait les bons choix? T'sais, la majorité de l'opinion publique, en tout cas ceux qui sont derrière lui actuellement, je pense pas qu'ils perdent beaucoup de votes parce qu'il a essayé de sauver des emplois, là. C'était dans l'intérêt public. C'est dans l'intérêt public et économique du Canada de sauver SNC-Lavalin, là. Aux dernières nouvelles, je pense que la vaste majorité ont rien à voir dans les histoires de pots de vin de SNC-Lavalin en Libye, là. Les ingénieurs ont rien à voir là-dedans. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, intervenir pour protéger les emplois de ces gens-là?
Hey, aux États-Unis, c'est-tu mal fait? Ouais, on n'est pas capable d'autoriser un budget. Fait que c'est le petit monde qui a des emplois qui sont en shutdown puis qui perdent de l'argent ou qui attendent pour leur argent. J'en reviens pas comment c'est mal fait. Ça m'insulte à la limite, Nicolas.
Ben oui, écoute, il y a eu 35 jours de shutdown, 800 000 fonctionnaires, Michel, qui ont été affectés, qui n'ont pas été payés, puis il y en a la moitié de ces 800 000-là, imagine-toi donc, qui travaillaient quand même s'ils n'étaient pas payés. Finalement, il y a eu un accord, on a appris qu'il y a eu un compromis. Donald Trump va avoir un bout de mur, Michel, 88 kilomètres de barrière, c'est ça le compromis. On dit que ça représente 1,3 milliard sur les 5,7 milliards qu'il demandait. Selon moi, c'est une victoire de Donald Trump parce que lui, oui, il n'a pas obtenu tout son mur, sauf qu'il va être capable de dire aux gens, regardez là, si parce que j'étais là, parce que vous avez voté pour moi, ben au moins là, j'ai été chercher un 88 kilomètres de barrière entre le Mexique et les États-Unis. Puis si vous me réalisez, ben je vais finir la job. Comprends-tu? Puis faut pas oublier aussi que les démocrates, au départ du bras de fer, avant le shutdown, là, eux, ils disaient on veut zéro kilomètre de mur, là. C'est une question de principe, on veut pas embarquer là-dedans. J'étais plutôt d'accord avec eux, là, mais peu importe. À la fin, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, selon l'accord, c'est qu'ils ont plié pour 88 kilomètres. Puis Donald Trump, hier, il était en El Paso en criant victoire puis en disant « ça nous prend un mur ». Puis vois-tu, là, les chantiers vont commencer et les barrières vont se construire. Puis là, tu peux être sûr d'une chose, que Donald Trump va aller sur le chantier les caméras. Puis il va dire « regardez, là, vous avez voté pour moi puis je suis en train de bâtir mon mur entre le Mexique et les États-Unis ». C'est ça qu'il voulait, Donald Trump. C'est pour ça que je pense qu'il sort gagnant du bras de fer, même s'il n'a pas eu tout obtenu l'argent qu'il demandait.
Je fais un rapprochement, Nicolas. Je te demande ton commentaire là-dessus. Tu sais, j'écoute Donald Trump parler. J'ai vu les promesses. Puis lui, il a parlé beaucoup des musulmans, des terroristes. Puis là, il a peur des Mexicains. Puis il a peur de tout le monde. Puis là, il veut protéger les États-Unis. Puis nous autres, on regarde ça, puis on s'élève contre le discours de M. Trump. On n'en revient pas. Ça n'a pas d'allure. Comme on s'est élevé pour Nathalie Lemieux à Gatineau, comme on n'en revient pas de certains commentaires à gauche et à droite, puis il faut faire très attention dans ces dossiers-là de pas mélanger les musulmans puis les mettre dans le même, tu sais, tout le monde dans le même bateau parce qu'il y en a des extrémistes, etc., etc. Mais je me dis, en quelque part, je sais pas si les gens sont très mal informés ou s'ils sont pas d'accord avec ses idées de fou à lui, puis je me demande si des fois c'est pas pareil au Canada.
Ouais, ben écoute, il y a certainement des gens qui sont d'accord avec Donald Trump pour qu'il y ait des murs entre les frontières, puis que l'immigration représente une menace, parce que Donald Trump, essentiellement, là, son discours sur la nécessité du mur, c'est de dire, les immigrants illégaux qui rentrent, plusieurs d'entre eux sont des criminels, des vendeurs de drogue, etc., donc il fait un amalgame, là, alors qu'on sait très bien, là, n'importe qui de moindrement intelligent comprend que évidemment, il y a peut-être dans parmi les immigrants légaux des gens qui sont criminels, là, mais la plupart, c'est parce qu'ils crèvent de faim, Michel, là, sont au Honduras ou au Venezuela, puis écoute, là, ils n'arrivent pas à survivre, fait que la seule façon qu'ils trouvent, c'est de se sauver puis essayer de rentrer aux États-Unis, mais c'est sûr que il y a des gens qui ont peur, tu sais, c'est un discours sur la peur, tu parles de Nathalie Lemieux, c'est ça, qu'est-ce qu'elle disait, Mme Lemieux? Elle disait, ben, ces gens-là, c'est quoi qu'elle disait, ils prennent le camion puis ils nous foncent dessus,
ouais,
ben,
ouais.
C'est quoi, t'alimentes les peurs, les gens ont peur, même si c'est pas rationnel, ça fait peur au monde, puis c'est ça que Donald Trump est capable de faire auprès d'une grande partie de l'électorat. Puis tu sais, Donald Trump, sur son mur, Michel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, y a des choses qui ne changent pas. Tu sais, c'est très simpliste ce qu'il dit. Un mur puis une roue, ça marchait là 3000 ans, puis ça marche encore. Tu sais, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu veux dire contre ça? Tu sais, c'est dur d'argumenter comme une personne comme Donald Trump qui te sort une affaire de même. Bien sûr que si tu mets un mur, c'est plus difficile de rentrer, mais il peut rentrer par ailleurs, puis il faut que tu te questionnes. Tu sais, c'est plus compliqué que ça, faut que tu te questionnes. Y a-tu moyen d'aider les pays à mieux se développer pour éviter qu'il y ait une grande partie des populations qui décident de migrer vers les États-Unis? C'est ça la vraie question, mais lui, il veut pas répondre à la vraie question. Ce qu'il dit, lui, c'est « Non, on va faire des murs, puis le monde ne va pas rentrer. » On sait très bien que dans les faits, Michel, là, il va y avoir des « boat people », puis le monde va finir par s'organiser pour rentrer n'importe comment. Mais bon, tu sais, quand tu veux pas te poser les vraies questions, puis tu t'en tiens un discours très simple, ben c'est sûr tu vas chercher une partie de l'électorat, sauf que dans 5-10 ans, le problème, lui, est encore là. Puis là, il y aura beau avoir un mur, puis tout ce que tu voudras, ils vont arriver par bateau, puis il va y avoir d'autres problèmes, puis bon, les gens vont se rendre compte que finalement, ça n'a pas changé grand-chose.
OK, mon Nicolas, va pelleter, on se retrouve demain matin, même heure, même poste.
Salut Michel, à demain.
Salut mon vieux. Voilà pour les commentaires de Nicolas Brisson. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. Respectez-vous, regardez-vous vraiment l'emballage quand vous allez faire l'épicerie. la directrice de coalition chez Coalition québécoise, au sein de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, elle dit qu'on devrait mieux afficher les produits qui contiennent, exemple, du sucre. Mieux identifier nos produits pour peut-être pas prendre trop de poids. Restez là, on en parle dans quelques instants à Que l'Outaouais se lève.